Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue, votre rendez-vous mensuel sur le jeu et sur l'actualité ludique dans la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et j'égaillerai de ma voix douce et chaleureuse cette émission. Pour les petits nouveaux qui nous écoutent, chaque mois je reçois un invité qui vient nous livrer son actualité. Et pour aujourd'hui, je reçois Bruno Coelho, aussi appelé Nono, qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Donc sans plus attendre, bonjour Nono.
Bonjour David.
Eh bien écoute, bienvenue dans À quoi qu'on joue.
Merci bien.
Comment ça va?
Eh bien écoute, agréablement bien.
Ah très bien, c'est parfait. Alors Nono est passionné du jeu X-Wing miniature et il est venu nous parler un petit peu de cette passion et de toutes les activités qu'il fait autour. Alors malgré ma petite présentation Nono, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots eh bien qui tu es?
Eh bien je m'appelle effectivement Bruno, alias Nono, plus souvent appelé comme ça. Je suis actuellement animateur au Centre socioculturel des Amognes à Saint-Benin-d'Azy. Et on va dire que j'ai un passif et un futur peut-être de joueur.
Alors, moi j'ai un petit gimmick dans cette émission. Je pose toujours la question à mes invités. Tu sais que notre émission s'appelle « À quoi qu'on joue ?» Alors toi, Nono, à quoi tu joues ?
Eh bien, actuellement à beaucoup de choses, beaucoup de jeux de plateau en ce moment dû à mon travail. Mais sinon, effectivement, ma principale activité de jeu, ça serait effectivement Star Wars X-Wing miniature.
D'accord. Et alors, on se connaît bien tous les deux, on peut le dire.
On peut dire ça.
Ouais. On peut parler un peu de ton sévère passif de joueur.
Eh ben, on dirait que tout a commencé, on va dire, à partir du collège-lycée, où j'ai effectivement commencé par des livres dont vous êtes le héros, qui m'a forcément continué sur du jeu de rôle. Mais à la toute base, je dirais que je suis figuriniste.
D'accord.
Donc, jeu de Warcame, Warhammer 40 000, des choses comme ça, et tout ça a évolué très vite après, quoi.
C'est alors, tu es l'un des premiers invités qui nous parle vraiment qui nous cite les livres dont vous êtes le héros. Alors, je sais pas si nos auditeurs savent bien tous ce que ça peut être, mais en attendant, nous, j'ai envie de dire à notre époque,
c'est
si on était des vieux, dans les années 90, les livres dont vous êtes le héros étaient édités par Folio Junior et c'était donc des livres de poche où vous aviez les trois premières pages de description d'un univers, d'une aventure, la présentation de votre personnage. Vous aviez une fiche de personnage, il fallait prendre 2 dés, un crayon, et vous commenciez par le premier paragraphe qui s'appelait paragraphe 1 et qui vous donnait des choix à la fin pour aller à d'autres paragraphes pour créer vous-même votre lecture et votre aventure. Et ça existe toujours, hein, les livres de Vous êtes le héros, ça a un peu évolué en termes de look et de design, mais vous pouvez en trouver dans toutes les librairies et ça s'appelle sur le côté toujours Livre dont vous êtes le héros. Si vous n'avez jamais essayé, même si vous aimez pas beaucoup lire, je vous recommande vivement d'essayer. Voilà, c'était ma petite parenthèse, Livre dont vous êtes le héros. Ben, j'ai fait tous les défis fantastiques, moi.
Non, évidemment, normal. Qui ne les a pas fait?
Et la quête du Graal, toi, tu l'as faite? Là, tu fêtes. Bon, alors, Nono, X-Wing Miniature, qu'est-ce que c'est?
Alors, X-Wing Miniature, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, d'affrontement de vaisseaux spatial, forcément, parce qu'on est dans l'univers Star Wars. Mais c'est aussi, effectivement, un jeu de figurines à collectionner.
D'accord.
Car à la base, effectivement, on achète ce qu'on appelle une boîte de base X-Wing, où on a quelques vaisseaux à l'intérieur, et après, on vient compléter son armée, son escadron plutôt, afin de faire des parties, alors à la base à 1 contre 1. Je rappelle quand même, c'est un jeu normalement à plus de 14 ans, parce qu'il y a beaucoup de cartes où on doit beaucoup lire les explications dessus. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle à la base un dogfight, donc vraiment du 1 contre 1 avec... où on peut faire évidemment des scénarios, mais c'est vraiment dû à un contraint à la base.
Alors, on va voir que dans le jeu de figurines, il y a tout un jargon qui lui est associé, comme toute pratique ludique, hein, que ce soit le jeu de rôle, le jeu de cartes, il y a toujours des termes. Et là, tu viens de nous dire un dogfight.
Exactement, un
dogfight. Alors, on va essayer, et pour moi, et pour les auditeurs, d'en traduire certains. Alors, le dogfight, qu'est-ce que c'est?
Alors, dogfight, si je traduis littéralement, ça serait un combat de chien. Et donc voilà, c'est vraiment 2 joueurs face à face qui sont là pour se rentrer dedans.
D'accord.
C'est vraiment du combat 1v1.
Et donc ça, c'est vraiment le but du jeu, c'est-à-dire on a 2 armées, 2 vaisseaux, qui vont s'affronter, et dès qu'une armée est détruite, c'est l'adversaire qui a gagné.
Exactement. Donc du coup, généralement, voilà, sur ce jeu-là, les parties se font entre 1h et 1h15.
D'accord.
Chacun se constitue son escadron, quelle que soit la faction ou autre. parce qu'on verra donc qu'il y a différentes factions dans ce jeu. On peut évidemment jouer ou l'Empire ou les rebelles ou l'Alliance ou autre. Et effectivement, chacun se constitue son escadron. Les joueurs se définissent le nombre de points à laquelle ils décident de participer, de faire cette mini-guerre, entre guillemets, et ils lancent la partie.
Oui, donc des règles qui ressemblent à d'autres jeux de figurines qu'on peut connaître, le système de calcul de points par figurine, avec un nombre de points totaux pour les deux, enfin le même nombre de points pour les deux joueurs, équilibrer le combat.
Pour équilibrer le combat, exactement.
D'accord, très bien. Et alors, ça se joue qu'en affrontement ?
Alors non, à la base, le jeu a été donc effectivement créé pour du joueur 1 contre 1, avec des scénarios. On peut créer des scénarios, comme il est écrit par exemple sur la boîte de base, c'est vraiment des petites parties de 30 à 40 minutes. Mm-hmm. Mais le jeu a été forcément plébiscité sur tout ce qui est tournoi. Et donc forcément, en France, le jeu a été plus utilisé en mode tournoi.
Oui, comme mode aventure, scénario.
Exactement.
Oui, et puis j'imagine, alors en fait, je connais le jeu, j'ai pratiqué un peu à une époque. Moi, j'avais essayé un petit peu de jouer en scénario, et effectivement, c'était pas aussi équilibré que sur un affrontement, puisque les objectifs, un objectif, c'est pas quelque chose de quantifiable en termes d'équilibrage des parties. Nous, on avait fait des X-Wing qui venaient sauver des otages rebelles dans une base de l'Empire où il y avait une navette lambda qui décollait. Il fallait pas qu'elle décolle.
Après, les puristes pourraient faire une reconstitution d'une bataille qu'on voit dans les films ou autre.
Tout à fait,
ou une escapade ou une escarmouche qu'on peut retrouver dans les films ou dans les livres. Mais pour moi, le jeu, ça s'apprête au mieux sur du 1 contre 1 en tournoi.
D'accord. Tu connais un peu les origines de ce jeu, d'où il vient ?
Alors oui, il a été créé forcément aux États-Unis, où on a une grosse communauté de joueurs. Il a été créé en 2012,
d'accord,
par un certain Jay Little.
Ouais.
Si vous cherchez un petit peu, Jay Little, il a créé beaucoup de choses, notamment le jeu de rôle Star Wars, le nouveau Star Wars.
Les dernières éditions.
Ouais, en version D6. Et moi, par exemple, j'ai commencé en 2015.
D'accord.
Quand le Réveil de la Force est sorti, le film.
Le film, donc l'épisode 7.
L'épisode 7, tout à fait. Et où déjà, donc à l'intérieur de cette boîte, effectivement, on avait deux TIE Fighters et le X-Wing de Poe, d'Abrod.
D'accord. Alors, tu nous cites en référence à la sortie du film. Je te pose une question dont je connais déjà la réponse, mais t'es fan de Star Wars, toi ?
Non, je déteste, je préfère les Vulcains.
D'accord, ça marche. Alors, on va la refaire. Tu es fan de Star Wars, toi ?
J'adore Star Wars.
Ah, très bien. Et je crois savoir que comment ça s'appelle cette maladie ? Une collectionnite aiguë, je crois.
Ouais, c'est ça. On peut dire une maladie, effectivement, au-delà de la passion. Voilà, je pense qu'on peut appeler ça la maladie. Oui, effectivement, chez moi, je dois avoir une 200 R2-D2.
200 R2-D2. Eh ben, j'espère qu'ils te font le ménage.
Malheureusement, non, ils sont sous vitrine, sous blister. Les collectionneurs accrus dans la licence Star Wars gardent encore leurs figurines sous l'emballage d'origine.
Donc, tu collectionnes les R2-D2, les figurines R2-D2 ou tout ce qui rappelle R2-D2 ?
Alors, on va dire tout ce qui rappelle R2-D2, mais en particulier, effectivement, R2-D2, la figurine.
R2-D2, la figurine. Donc, si un jour on voit une figurine quelque part R2-D2, on peut passer un coup de fil en disant « Hey, tu l'as ?»
Voilà, c'est ce qui arrive effectivement le plus souvent entre amis, par exemple lors de mon anniversaire ou autre. Les gens arrêtent de m'acheter des choses Star Wars ou autre, car ils doutent bien que je l'ai déjà, ou je l'aurai en doublon ou autre.
D'accord. Et alors, au niveau de X-Wing miniature, tu collectionnes aussi ?
Alors,
Parce que tu nous as dit d'emblée que c'était un jeu aussi à collectionner.
Exactement. Pour moi, l'avantage de ce jeu, c'est que on n'est pas déjà obligé d'y jouer, mais on peut acheter les figurines pour qu'elles soient jolies, les mettre en vitrine ou chez soi, etc.
Et c'est vrai que le matériel de jeu, pour y avoir joué, moi aussi, c'est ce qui m'a attiré sur ce jeu-là, c'était la qualité des figurines. Elles sont magnifiques.
Les figurines sont déjà peintes.
Ouais, elles sont pré-peintes, ça change pas mal la donne sur un jeu de figurines, puisqu'il y a plein de jeux figurines où vous avez les figurines à assembler, donc elles sont soit en plastique, soit en métal. Il faut faire les collages, il faut les faire vous-même, et ensuite, il faut les peindre.
Et là, elles sont peintes, elles sont à 95% à l'échelle 1/270e.
Ah, elles sont carrément à l'échelle.
Donc du coup, voilà, on peut vraiment comparer la taille, par exemple, d'un X-Wing et du Faucon Millennium, sans souci. On voit bien la différence entre les tailles.
Ah, je savais pas qu'elles étaient à l'échelle. Ils ont poussé la précision jusque-là. Ouais.
Ils ont essayé de pousser la précision jusque-là parce que déjà, c'est plus réaliste.
Ils
ont...
Ça fait le même effet visuel que dans les films.
Exactement. On a la chance de jouer, alors, pas tout le monde, évidemment, mais quand vous commencez à jouer, vous jouez sur une, il y a une dimension forcément de table où vous devez jouer sur une table par exemple de 90 sur 90, un carré.
Ouais.
Et après, donc du coup, forcément, les joueurs un peu plus expérimentés ou autres s'achètent ce qu'on appelle un tapis, comme un tapis de souris. Et donc là, forcément, on a une jolie, ce qu'on appelle map.
Ouais.
Une jolie map,
bien sûr.
Où effectivement, il y a une planète ou
l'espace. Ouais, ça fait le décor.
Et ça fait le décor, évidemment.
Très bien. Nono, je te propose qu'on fasse une petite coupure musicale. Alors, tous les mois, c'est l'invité que je reçois qui nous choisit les morceaux que nous écoutons. Donc, nous allons écouter un morceau de John Williams, de la BO de Star Wars, qui s'appelle Duel of Fate. C'est parti! Et voilà, c'était John Williams avec le morceau Duel of Fate de la bande originale de Star Wars. Alors, c'est bien sûr Nono qui nous a fait notre sélection musicale. Nono, pourquoi tu as choisi ce morceau, dis-moi?
Alors, petite rectification, le morceau s'appelle Duel of the Fate.
Pardon.
Le duel de foi qu'on peut entendre évidemment dans les films Star Wars.
Oui, ben on peut même citer à quel moment, c'est dans l'épisode 1.
Dans l'épisode 1, le combat entre Obi-Wan, Qui-Gon et le fameux Dark Maul.
Ouais.
Et il me semble qu'on l'entend dans l'épisode 3, La Revanche des Sith.
Je crois que le morceau est réutilisé plus tard. Ouais.
C'est ça. Et donc, Duel of the Fate, parce que bah, côté clair, côté obscur.
Bien sûr.
La fameuse histoire de Star Wars. Quoi. Et pourquoi j'ai choisi ce morceau-là? Bah, parce que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Duel of Fate, mais Fate, F-E-T, comme le célèbre Boba Fett.
Comme le nom du chasseur de primes. Alors, on reviendra sur la chaîne un tout petit peu plus tard. Donc, tu es venu pour nous parler de X-Wing Miniature. Donc, tu nous as expliqué un petit peu comment fonctionnait le jeu, d'où il venait et qu'il avait créé. Alors, ce jeu-là est quand même inspiré d'un autre jeu en termes de mécanique de jeu.
Alors, moi, je me souviens à l'époque, il y a un certain moment, je jouais à un petit jeu de cartes qui s'appelait Wing of Wars.
Et oui, et c'est pour ça que je t'en parle, parce que j'y jouais aussi, moi.
Et donc, voilà, c'était un petit déplacement d'avion de guerre, j'imagine, de Seconde
ouais,
Guerre mondiale.
Ouais, c'était
ou
la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre. Enfin, il y avait plusieurs périodes, ouais.
Et donc, voilà, j'avais aimé ce système où, effectivement, on jouait un avion et on positionnait des cartes de manœuvre devant l'avion pour le faire bouger, le faire évoluer au cours de la partie.
Et ouais, et c'est vrai que c'était très sympa parce que donc c'était, vous voyez, hein, les mini-cartes, hein, c'est-à-dire la moitié de la taille d'une carte normale. Vous avez une carte avec votre avion et puis vous avez dans la main tout un set de cartes avec des directions, des flèches qui vont vous dire vous allez un quart à gauche, un quart à droite, des choses comme ça. Et vous les placiez parfaitement sur votre carte avion pour qu'il puisse faire son déplacement et il se déplaçait de la longueur de la carte. C'était une mécanique de jeu qui était vachement sympa. Et donc du coup là on va rentrer un petit peu dans X-Wing, la manière dont ça fonctionne, puisque c'est un peu semblable.
C'est ça, c'est exactement la même chose. Non, là, au lieu de positionner des cartes, on a ce qu'on appelle des gabarits de mouvement, où effectivement, là, vous allez pouvoir ou avancer très vite, ou tourner très vite, ou tourner très fort, même faire des demi-tours, des espèces de looping, des choses comme ça. Et donc voilà, le jeu se décompose en différentes phases. On a une phase de programmation où, secrètement, chaque joueur va programmer le mouvement qu'il va choisir.
Ouais.
Avec ce qu'on appelle des roues de manœuvre.
Ouais.
Donc c'est des petits trous effectivement où vous allez pouvoir sélectionner la vitesse et le virage ou la ligne droite que vous allez faire avec votre vaisseau. Ensuite, une fois que tout le monde a joué son vaisseau, a déplacé son vaisseau, enfin une fois que tout le monde a choisi sa roue de manœuvre, on va faire bouger les vaisseaux.
Mmh.
Donc la phase d'activation, on va activer les vaisseaux, les pilotes en tout cas. Et ensuite, on va aborder la phase de tir et là. Si on voit le vaisseau adverse, on pourra lui tirer dessus. Si on le voit pas, on lui tire pas dessus, etc.
Évidemment. Alors, je voudrais souligner. J'ai testé pas mal de jeux de figurines au cours de mon parcours de joueur, mais en vrai, X-Wing Miniature a un avantage. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait un avantage par rapport à plein d'autres jeux, c'est que les règles sont simples.
Les règles sont assez simples. Le seul problème, moi, que je pourrais noter sur Star Wars X-Wing Miniature, c'est le temps de préparation. Parce qu'effectivement, on va sortir ses figurines, on va sortir ses tokens, on va sortir...
Et oui, parce qu'il y a plein de matériel.
Tout le matériel, justement, tous ces gabarits, etc.
Les réglettes et tout ça, oui.
Mais une fois que tout ça est sorti, effectivement, le jeu est super simple.
Mais en vrai, prenons un gros jeu de plateau, un jeu de ce qu'on appelle aujourd'hui les experts, pour les joueurs qui sont vraiment les joueurs acharnés. Il y a énormément de mise en place aussi. Et c'est pas si différent.
Non. Voilà. Après, l'avantage qu'on a là, c'est que les figurines, donc effectivement, sont déjà pré-peintes, etc. Il suffit juste rapidement de les monter sur un petit socle en plastique.
Ouais.
Et on n'a pas 50 000 figurines à sortir. Je pense à Warhammer 40 000, où à l'époque,
ouais,
on était obligé de sortir des pavés de figurines.
Ouais, moi, j'avais joué au Seigneur des Anneaux, qui avait été édité par Game Workshop, donc les mêmes qu'on fait Warhammer. Les armées, on sortait 50 figurines, 60 figurines.
Ça, et sans parler...
Bien les reconnaître, les faire se déplacer en plus en bataillon. C'était en kikinant en fer, quoi.
Sans parler des décors à mettre en place, etc. Là, on joue effectivement sur une map, sur un tapis de jeu de 90 par 90, les seules choses qu'on a à mettre dessus, c'est quelques astéroïdes et c'est tout.
Ouais. Et qui sont fournis dans la boîte sous forme en carton,
tout à fait.
Mais c'est vrai que ça se fait assez facilement en 3D si on a envie. Il y a plein de tutos, d'ailleurs, j'avais vu sur Internet pour pouvoir fabriquer ces petits décors en une demi-journée où vous êtes fait des décors pour toute une vie X-Wing, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça.
Donc, au niveau, alors, tu nous as expliqué donc l'histoire du jeu, tu nous as expliqué le déroulement d'un tour. En vrai, il y a plus que ça, puisqu'on va pas juste jouer des X-Wing ou des TIE Fighters. le jeu a tout un univers, enfin l'univers de Star Wars évidemment.
Exactement. Ouais.
Mais alors comment ça se passe? Comment on choisit ce qu'on va jouer, puisqu'on peut choisir et on doit choisir?
Alors déjà voilà.
Comment ça marche?
Effectivement, on doit choisir une faction. Donc ce que j'appelle faction, évidemment dans Star Wars, vous doutez bien qu'il y a les rebelles, l'Empire.
Bien sûr.
Il y a aussi ce qu'on appelle les renégats, donc tout ce qui est chasseurs de primes, des choses comme ça.
Voilà.
Et forcément, avec les nouveaux films, ils ont sorti forcément de nouvelles figurines. Et donc, du coup, on a la faction du Premier Ordre, de la Résistance. Ils ont sorti également la République, là où ont joué les Jedi, par exemple.
D'accord.
Et ils ont sorti aussi les Séparatistes, donc en gros, l'armée de Grievous, du général Grievous.
Ah oui, donc ils ont sorti des vaisseaux qui... ils avaient fait en fait les épisodes 4, 5, 6 et puis 7, 8, 9.
Exactement.
Et donc là, ils ont fait aussi des vaisseaux et des factions des épisodes 1, 2, 3, puisque la politique au sein des films n'est pas la même. Et les...
Exactement, les vaisseaux sont différents. Et donc voilà, pour faire un point central et faire un rappel, effectivement, on joue des vaisseaux, mais en fait, on ne joue pas des vaisseaux. On joue des pilotes.
Ah, d'accord.
Et
oui.
Chaque pilote est forcément associé à un vaisseau.
Bien sûr.
On n'a jamais vu, par exemple, Chewbacca conduire, enfin, piloter un TIE Fighter.
Oui.
Donc forcément, Chewbacca est forcément associé au Faucon Millenium.
D'accord.
Poe Dameron, je prends un autre exemple. Pareil, lui ne pilote pas le Faucon Millenium, mais il pilote un X-Wing, et alors là je rentre dans les détails, un T-70.
D'accord, parce qu'il y a plusieurs X-Wing différents.
Il y a plusieurs X-Wing différents. Forcément dans les nouveaux films, entre Poe Dameron qui prend un T-70 dans le nouveau film avec les petits liserés bleus,
oui.
et Luke qui a les anciens X-Wing, les T-65 tout simplement.
Voilà, qu'on le liserait orange.
Exactement.
Et il y a une différence en fait sur la performance du vaisseau, j'imagine, entre les deux.
C'est ça, j'aime bien comparer moi en disant que bah un X-Wing c'est une Formule 1 et un TIE c'est pas une Formule 1 mais c'est plutôt une Bugatti par exemple.
D'accord. Mais il n'y a pas besoin de connaître l'univers de Star Wars sur le bout des doigts, puisque tout ce que tu nous expliques là, effectivement, c'est directement associé à Star Wars, puisque c'est le nom exact des vaisseaux qu'on nous dit parfois même pas
dans les films.
Dans les films. Mais en vrai, tout ça, c'est évidemment expliqué dans les règles ou dans les extensions du jeu qu'on achète. Ou bah vous achetez, quand vous achetez un X-Wing, vous achetez pas juste un X-Wing, vous choisissez le modèle de X-Wing, il y en a deux différents, vous choisissez celui que vous voulez. Et donc, on va associer ce vaisseau à un pilote.
C'est ça.
Il y a une association de base qui est faite?
Forcément, obligatoire.
D'accord.
Dès que vous choisissez la carte du pilote, oui. Il y a forcément écrit en dessous le vaisseau que vous devez choisir pour pouvoir jouer le pilote.
Et un pilote peut être mis dans différents vaisseaux?
Eh ben, ça dépend. Ça dépend. C'est la carte qui va décider. Si vous choisissez telle carte, elle aura forcément l'associé, enfin le vaisseau associé avec.
D'accord. Alors, Poe Dameron, il peut piloter évidemment son X-Wing, mais il doit pouvoir piloter une liste d'autres vaisseaux différents, j'imagine?
Non, pas du tout.
D'accord.
Poe Dameron, lui, il est réservé que au T-70.
Oui, puisque, en fait, au-delà de la boîte de base dont Nono vous a décrit tout à l'heure, il y a aussi, ensuite, vous achetez les vaisseaux un par un, en fait.
C'est ça.
Et donc, avec chaque vaisseau, vous avez le vaisseau, évidemment, mais un set de cartes.
Et un set de cartes avec effectivement plusieurs pilotes qui pilotent ce vaisseau.
D'accord.
Et des accessoires, entre guillemets, ce qu'on appelle du crew, donc des copilotes,
oui.
De l'équipement missiles, mines, des choses comme ça.
Et oui, parce que le jeu, comme c'est un système de valeur de points de votre vaisseau, en fait, vous avez votre vaisseau, il vaut tant de points, et vous, comme vous avez un choix de pilote avec le vaisseau, bah, vous choisissez votre pilote qui vaut tant de points, et puis ensuite, j'ai envie de dire les accessoires, mais c'est l'armement, en fait.
C'est ça.
Et plus vous mettez de l'armement qui est costaud, plus j'imagine que c'est cher en points.
C'est ça. Ouais. Généralement, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça.
Oui, donc si on fait une partie avec un nombre de points, comme on disait tout à l'heure, il est fort possible que moi j'ai deux très gros vaisseaux armés jusqu'aux dents et qu'en face, il y en ait cinq qui soient moins armés. En fait.
Exactement, c'est exactement ça.
Très bien. Et donc c'est un jeu qui a déjà subi pas mal d'évolutions, puisque tu nous disais il est sorti en 2012.
C'est ça, aux États-Unis il est sorti en 2012 et... En 2018,
ouais.
Il y a eu ce qu'on appelait la V2, donc une version 2 forcément du jeu.
Une mise à jour du jeu.
Une mise à jour, et donc forcément il y a eu des errata, des choses qui ont été modifiées sur les cartes. Un système qui a légèrement changé, mais au final le système global reste le même. Toujours
oui, ils avaient vendu des boîtes pour adapter tes anciennes figurines, pas aux nouvelles règles, parce qu'elles sont pas vraiment nouvelles, mais aux règles débuguées, on va dire.
C'est ça. Et donc, du coup, les cartes, entre guillemets, ont changé, mais les vaisseaux restent les mêmes. Donc, un joueur qui était là en V1 peut continuer à jouer en V2. Il suffira effectivement d'acheter ou les kits de conversion pour les cartes, pour retrouver les cartes qu'il avait avant, ou repartir de base avec de nouvelles cartes.
Oui, c'est ça. Celui qui commence à jouer demain, tout est déjà en V2. Tout ce qu'il achètera de A à Z sera de la V2, puisque de la V1, on ne peut plus en trouver dans les magasins.
Exactement.
Et pour ceux qui avaient essayé il y a longtemps, ils peuvent toujours adapter le matériel en achetant juste un tout petit kit qui leur permettra de convertir les règles de leur vaisseau de la V1 à la V2.
C'est ça.
Et ça, je voulais qu'on parle de ce principe-là parce que j'avais trouvé ça vachement intéressant. Il y a un vrai suivi de la part des créateurs du jeu sur le jeu et le fait est de le mettre à jour pour le corriger. Enfin, il n'y a pas beaucoup de jeux physiques matériels qui proposent de faire ça en fait.
Alors oui, voilà. En plus de ça, voilà, il y a une vraie communauté derrière qui suit l'évolution entre guillemets du jeu et des règles. Et qui, donc j'imagine que beaucoup de jeux forcément ont été testés par les créateurs, des choses comme
ça. Bien sûr.
Mais là, en plus de ça, voilà, il y a vraiment un retour fort de la communauté derrière qui alerte tout de suite dès qu'il y a ou un mini bug ou une incompréhension ou quelque chose qui ne va pas sur le jeu, quoi.
En préparant l'émission, tu m'avais même dit, en parlant de la communauté, que tu me parlais des tournois, alors je sais plus de quel championnat, peut-être le championnat du monde, et que le gagnant avait le droit de proposer une carte.
Alors exactement, il y a différents forcément championnats, je passe le championnat de France, régional, etc.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, au niveau du championnat du monde, parce que oui, il y a un championnat du monde de Star Wars X-Wing, le gagnant a le droit, entre guillemets, une petite interview avec les créateurs en disant il a noté que sur ce point-là il y avait un besoin ou autre ou un manque et il pouvait susciter l'intérêt de création d'une nouvelle carte.
Ouais, et je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, je parle aux auditeurs, je sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution qu'il y a dans la mentalité des créations de jeux, avoir cette démarche-là, parce que tu es le champion du monde, parce que tu es le meilleur dans ce jeu, donc, et que tu joues beaucoup, les créateurs viennent te demander si tu, des conseils, en fait. C'est génial, parce que c'est un retour direct, effectivement, de celui qu'on va considérer par le tournoi du meilleur des joueurs du monde, puisque c'est le champion. Je trouve que c'est une démarche qui est géniale.
C'est extra et après c'est toujours une petite fierté de dire
c'est ma carte,
c'est ma carte.
Alors Nono, toi tu as créé une chaîne YouTube donc qui s'appelle Duel of Fate.
Tout à fait.
Sur X-Wing. Alors en quoi consiste en fait ta chaîne YouTube, Nono?
Alors Duel of Fate, je l'ai créé donc en fin 2019 et donc c'était pour montrer à la communauté francophone des rapports de bataille. Rapports de bataille donc filmés. Donc en tournoi, ce qu'on aime bien, c'est effectivement avant, par exemple, quand on prépare un tournoi, on aime bien regarder les factions qu'on va jouer ou différentes stratégies qu'on peut mettre en place. Et donc forcément, quand on regarde des tournois, on regarde comment ça marche, comment ça se positionne, quelles sont les meilleures tactiques, quelles sont les meilleures stratégies. Et je me suis rendu compte qu'en France, on n'avait pas
de chaîne comme ça,
de chaîne qui le faisait en français en tout cas.
Puisque ça se fait beaucoup aux États-Unis.
Ça se fait évidemment beaucoup aux États-Unis, partout en Europe aussi. La seule chaîne entre guillemets francophone que j'avais trouvée à l'époque, c'était au Canada, Québec.
Ouais, d'accord.
Mais du coup, ça fait un peu loin pour discuter, même si Internet ça aide. Mais voilà.
Ouais.
Et au-delà de faire d'une chaîne YouTube d'unboxing de figurines ou autre, ce que je voulais, c'était effectivement créer des rapports de bataille, les filmer. Et expliquer aux gens pendant ces rapports de bataille, expliquer la stratégie du joueur en question et montrer 2-3 stratégies en plus.
Ouais. Et donc c'est une installation un peu particulière et tu utilises des logiciels spécifiques pour pouvoir organiser tout ça.
Alors voilà, à l'heure actuelle, vous imaginez, comme Twitch, YouTube, etc. évoluent forcément, il faut un matériel un minimum pro quand même pour avoir quelque chose de qualitatif. Et donc du coup, forcément, on s'équipe en caméra, en micro. Ça prend du temps de montage, de logiciel de montage, etc.
Oui, alors c'est ce que tu me disais. Alors effectivement, il y a un plan de caméra spécifique puisque tu fixes ta caméra au-dessus du plateau de jeu de manière à voir, on voit les deux mains des deux joueurs et qui déplacent leur vaisseau, pardon.
C'est ça.
Et tu utilises un logiciel spécifique qui permet d'afficher toutes les informations essentielles au jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ça, comment ça marche?
C'est ça. Donc le logiciel que moi j'utilise et que beaucoup de YouTubeurs ou Twitchers ou autres utilisent, c'est le logiciel OBS Studio, qui vous permet effectivement de capter, que ça soit en live ou pas en live d'ailleurs, une source vidéo et d'y inclure forcément tout ce que vous avez besoin. Insérer un point rouge, insérer qui vient de souscrire la chaîne, des choses comme ça.
Oui.
Et donc grâce à OBS, effectivement, tout vient se caler grâce à ce logiciel-là.
Ouais, moi ce que j'avais vu là en démonstration que j'avais trouvé impressionnant, c'est que au-delà de tous les coups qui étaient marqués à la manière d'un forum ou quelque chose, il y avait surtout l'apparition de toutes les cartes du jeu.
C'est ça.
Et ça, c'est vraiment génial. Le joueur joue quelque chose. C'est vrai que du point de vue de l'œil de la caméra, on peut pas forcément voir toute l'action qui s'est faite, à moins de connaître vraiment le jeu sur le bout des doigts. Bon, bah là, on a le rappel de la carte qui apparaît à l'écran avec ses effets, enfin son visuel, la totale.
C'est ça. Et ça se fait forcément en live. Donc, par exemple, quand un vaisseau subit un dégât, effectivement, je clique sur un petit bouton d'OBS qui me permet d'afficher le dégât et de lire directement en réel, au lieu que, bah forcément, on est en train de filmer des joueurs, donc les joueurs se le disent à voix entre eux,
ouais,
directement.
Bien sûr, ouais.
Mais là, ça apparaît à l'écran. Et moi, du coup, je fais un travail de commentateur.
C'est ce que j'allais dire.
Derrière, et qui explique encore plus, enfin, qui va plus loin, en expliquant, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé comme ça.
Tu es commentateur ludique.
On peut dire ça, commentateur ludique spatial. Ça marche, je prends.
Et donc, tu es effectivement le seul à faire ça en France.
Eh bien, je suis alors le seul à faire comme ça en France. Il y a d'autres vidéos, il y a d'autres chaînes qui le font. Je pense par exemple à Hobby Figurine,
oui,
qui eux le font sur du X-Wing et sur d'autres jeux de Wargame, etc. Moi, ce qui me déplaisait par exemple sur Hobby Figurine, même si je les aime bien, c'est qu'ils faisaient ça à la troisième personne. Donc la caméra n'était pas fixe et on ne voyait pas l'ensemble du jeu.
Et oui.
Ils suivaient directement les vaisseaux.
Ah oui, donc tu perds tout repère sur une table de jeu. Ouais.
Exactement. Et après, il y a le côté vomitif qui fait que la caméra bouge, ça bouge dans tous les sens. Ouais. Forcément, tu suis un vaisseau et pour moi, c'était pas
un bon effet de style. Ouais.
Voilà, c'était pas qualitatif comme peuvent le faire les Américains ou les Anglais.
D'accord, alors tu nous redis le nom de ta chaîne ?
Duel of Fate.
Bon, donc si on veut te suivre, il suffit de taper Duel of Fate
sur YouTube.
Sur YouTube. Et puis s'abonner, hein, évidemment.
Avec grand plaisir.
Alors, on l'a compris, et tu nous l'as dit plusieurs fois, et on en avait parlé en préparant l'émission, il y a un gros aspect, j'ai envie de dire, communautaire, et une grosse communauté, sur tout ce qui est le jeu X-Wing. Qu'est-ce que on pourrait dire sur cette communauté aujourd'hui, qu'elle soit nationale ou locale ou internationale, je sais pas, hein, mais
alors moi évidemment quand j'ai commencé le jeu sur Nevers, il y avait pas grand monde qui jouait à X-Wing.
Ouais.
On a avec un ami on a recherché un peu qu'est-ce qu'il y avait le plus proche chez nous et on s'est retrouvé avec une communauté de Bourges par exemple avec la confrérie des Arcanes qui organisait des petites rencontres ou des tournois, etc. C'est comme ça qu'on a commencé à rallier cette communauté. Et au fur et à mesure des parties, et des tournois, on s'est rendu compte que, grâce à l'effet entre guillemets Star Wars, l'effet buff, oui, évidemment, il y a beaucoup de monde qui y joue, et à partir de là, les tournois se sont enchaînés partout en France, Vichy, Paris, le Sud.
Oui, et c'est vrai que je me souviens qu'il y avait une grosse émulation au niveau des tournois à un moment, et ça devait être en
2018-2019.
Ouais.
C'est là où j'ai joué moi le plus, et forcément on apparaît. Donc il y a des organismes comme le T3. Le T3 c'est un site où sont référencés tous les tournois.
Et oui, on peut. Alors moi ce que je te propose, on revient, on fait une petite coupure musicale et on revient sur le T3 juste après. Et on est comme ça, on pourra expliquer en détail ce qu'est le T3 et en quoi il consiste. Alors Nono nous a apporté une deuxième chanson. Il m'a dit le titre juste avant, mais je vais laisser Nono nous le dire en fait. Alors qu'est-ce qu'on écoute, Nono ?
Alors on écoute Desabafo de Marcelo D2.
Allez, c'est parti.
Eu já falei que tenho algo a dizer, ele disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita, por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião, a mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento, que sem treinamento se mostra incompetente, o cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também, de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem em mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais, o que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte, lava a mão como Pilates achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa.
Et voilà, on est de retour. Alors, Anono, qu'est-ce qu'on a écouté déjà?
On a écouté Marcelo D2 avec le titre Desabafo.
Alors, pourquoi tu nous as amené cette chanson-là, Anono?
Eh bien, parce que j'ai des origines portugaises et que du coup, c'est du brésilien. C'est un mélange de rap et de samba. Le chanteur s'appelle Marcelo D2, comme mon personnage préféré dans Star Wars.
D'accord.
Le lien est fait.
Alors, on était en train de parler de la communauté de X-Wing et puis du site T3. Alors, non, je t'ai coupé, mais qu'est-ce que c'est donc le site T3?
Le site T3, c'est un site internet où vous vous inscrivez et vous accédez à tous les tournois en France et en Europe de tous les jeux de figurines.
Ouais, et c'est vrai que c'est une belle fédération, enfin c'est un beau regroupement, c'est vachement bien fait.
Et
ouais.
Donc du coup, voilà, forcément c'est plus facile de retrouver un tournoi près de chez vous, sur le jeu que vous le souhaitez, et donc du coup, c'est là que se fait ce classement, France, et à partir de là, vous rencontrez d'autres communautés, et vous pouvez vous inscrire plus facilement, ça vous permet de faire un classement et de regrouper tout le monde sur un seul et même site.
Et alors, plus localement autour de Nevers, quelle est la communauté de joueurs de X-Wing?
Eh bien, sur Nevers, pas grand-chose. J'ai créé en 2020, peut-être, ou 2019, je ne sais plus, une association qui s'appelle la 58e Légion à la Charité.
D'accord.
Car on avait pas mal de joueurs dans le coin, soit la Charité ou Belleville. Et donc, du coup, voilà, on a créé cette petite association, la 58e Légion, pour, du coup, voilà, arriver sur des tournois et se fédérer, pouvoir s'entraîner sur place à la Charité. Entre nous, commencer à filmer quelques parties, ce qui m'a permis de mettre ces premières vidéos sur ma chaîne.
Oui. Et vous déplacez sur les tournois.
Et on se déplace sur les tournois.
D'accord. Les activités en reprise de l'association et des tournois français. Je parle de la crise sanitaire en disant ça, évidemment.
C'est ça. Alors pour le moment, on s'est pas encore regroupé dans notre local à la Charité, mais il y a déjà un tournoi le mois prochain.
Ouais.
Qui est déjà complet, d'ailleurs.
D'accord. Oui, les activités vont reprendre. J'imagine, nous, c'est pareil au Conservatoire du Jeu. Au moment où on enregistre cette émission, on est quelques jours avant sa diffusion, on vient tout juste de faire notre Assemblée Générale aussi, et par là même, notre reprise, en fait. Donc il faut que les associations de loisirs et de divertissement, que ce soit la 58e Légion ou les autres, effectivement, on a un temps de, pas d'adaptation, mais un temps de remise en route qui est un peu plus long cette année à cause de la crise sanitaire, de, des locaux qui sont pas, soit qu'on a perdu, soit qu'on n'arrive pas à avoir. Enfin, tout est un peu compliqué sur ce mois de septembre.
Et tout le côté administratif est à reprendre.
Et donc voilà pour les activités associatives, quand on reçoit, bah forcément, quand vous avez une association, que vous recevez vos adhérents ou du public, avec les nouvelles conditions sanitaires, le principe de l'associatif, c'est qu'on n'est pas des professionnels des événements ou des accueils de public, et que là, bah, il faut se professionnaliser un peu quand même, parce qu'il y a tout un tas de nouvelles lois qui sont toutes en lien avec la crise sanitaire et qu'il faut respecter à la lettre. Donc ça complique un peu. Alors, si je veux plus d'infos, si je veux venir jouer avec vous, avec toi, comment je fais, Nono ?
Eh bien, il suffit d'aller sur le Facebook et de taper la 58e Légion et de contacter le président, le vice-président Noël Gounod ou David Parent.
D'accord.
Ou moi-même, évidemment. Et avec grand ouvert, on ouvrira les... Le hangar à vaisseau.
Eh bien, merci Nono. Alors, on rappelle l'association La 58e Légion à la Charité via leur page Facebook. N'hésitez pas. Et si vous voulez voir un peu plus de près à quoi ressemble Eastwind en général, vous avez d'abord la chaîne de Nono qui s'appelle donc Duel of Fate, F-E-2-T, hein, comme Boba Fett.
Exactement.
Et où vous verrez des explications sur des parties, peut-être même un peu d'analyse de jeu et tout ça. Et puis, bah sinon, vous pouvez faire aussi une recherche en tapant tout simplement Eastwind Miniature sur Internet ou les réseaux sociaux. Ça ne manque pas d'informations. Eh bien, merci Nono, merci. Je reviens à toi
merci
tout à
toi.
L'heure. Alors, eh bien voilà, ça y est, on arrive enfin à un moment où on peut vous annoncer un programme d'animation pour les mois à venir. Comme nous l'avons fait pendant très longtemps et que nous faisions plus depuis quelques mois à cause du Covid, ça y est, les activités sont reparties. Donc à vos agendas, à vos stylos, on va parler du programme d'animation du Conservatoire du Jeu au mois d'octobre. Alors on va commencer fort avec le samedi 2 octobre à Chaluis pour la fête du sabot. Figurez-vous qu'il y a un événement de l'agglomération de Nevers qui s'appelle la journée de rêve, qui a été reporté à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire, qui est venu s'intégrer au sein de la fête du sabot. Et le Conservatoire du Jeu sera présent avec non pas une mais deux animations. Une animation jeu traditionnel et jeu en bois comme on a l'habitude de faire de 10h à 18h en accès libre et gratuit, mais également un mini escape game, une mini scène de crime qui s'appelle le Grand Concours National de la Fibre d'Or. Alors, pour pouvoir vous inscrire à cette mini-scène de crime, vous pouvez venir nous voir sur place le jour J, donc le samedi 2 octobre, ou bien dès à présent, nous envoyer un mail à conservatoiredujeuyahoo.fr et réserver vos places. Toutes les informations nécessaires sont sur Facebook et notre site internet pour les horaires des sessions. Vous nous retrouverez ensuite le jeudi 21 octobre au bar Le BBC, en face de la gare à Nevers. Nous serons désormais tous les troisièmes jeudis du mois là-bas, avec une animation jeu traditionnel, avec des lots à gagner pour les meilleurs joueurs au billard hollandais. Donc on reprend des vieilles habitudes en installant notre set de jeux traditionnels et de jeux en bois au sein d'un bar. Et figurez-vous que nous avons profité de la crise sanitaire pour rajouter plein de jeux au set de jeux traditionnels. On est passé d'une vingtaine de jeux à plus de 40. Donc n'hésitez pas à venir découvrir, il y a plein de nouveautés le jeudi 21 octobre, donc de 20h à minuit. Et pour finir avec ce mois d'octobre, nous serons le dimanche 31 octobre, pour ce week-end d'Halloween, au musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers pour une scène de crime spéciale. Encore une fois, c'était un projet de l'année dernière qui se déroule donc maintenant. Deux sessions de jeu dans la journée du dimanche, une à 16h, l'autre à 18h30. Un scénario unique que nous avons écrit et réalisé spécifiquement pour le musée de la faïence et que vous ne pourrez jouer qu'à cette occasion. Donc pour vous inscrire, pareil, vous allez jeter un petit coup d'œil sur notre Facebook, vous trouverez toutes les coordonnées, c'est directement le musée qui vous inscrit sur cette scène de crime. Pour finir, on vous parle avec un peu d'avance du prochain gros événement de la prochaine manifestation associative du Conservatoire du Jeu. Elle aura lieu le samedi 20 novembre de 17h à minuit au Château des Loges à Nevers et ce sera notre cinquième nuit du jeu. Donc nous allons vous proposer du jeu traditionnel, du jeu de plateau, du jeu vidéo rétro gaming et si tout va bien, il y aura même du jeu de rôle, une petite buvette et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on sera toute la soirée de 17h à minuit au Château des Loges à Nevers. Bien évidemment, je vous le dis à chaque fin d'émission, le programme ne peut qu'évoluer. Et là, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Il y a de nombreuses autres dates qui sont en train de se valider et de s'inscrire sur le programme des activités du Conservatoire du Jeu d'ici la fin décembre. Donc, pour pouvoir vous tenir informé de tout ça, je vous invite à nous suivre sur le Facebook Conservatoire du Jeu ou sur Instagram, mais aussi à regarder le programme sur le site internet leconservatoiredujeu.fr. Voilà, eh bien notre émission se termine. Ah non, j'ai oublié de parler de quelque chose. Attendez, non, on se termine pas tout de suite. Vous savez, j'ai fait plein d'appels en 2019 et en début 2020 avec le Conservatoire du Jeu en vous disant qu'on était à la recherche d'un local. Eh bien, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Nous avons cruellement besoin d'un local pour pouvoir nous regrouper, faire nos réunions, jouer les vendredis soirs et tout ça. Donc, si vous travaillez dans une municipalité ou dans une structure et que vous entendez mon appel, n'hésitez pas à nous contacter au Conservatoire du Jeu. On cherche un local un vendredi sur deux, en soirée, quelque part sur l'agglomération de Nevers. Voilà. À bientôt. Très bien. Bon, cette fois-ci, vraiment, cette émission se termine. Nono,
oui.
Un mot pour la fin ?
Palpatine.
Ah, très bien. Merci, Nono. Eh bien, merci, Nono, d'avoir été mon invité aujourd'hui.
Merci à toi.
C'était la 30e émission de À quoi qu'on joue. C'était notre anniversaire de la 30e, en vrai.
Anniversaire.
Merci. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions en podcast sur bacfm.fr et vous pourrez également retrouver cette émission dès le mois prochain sur la chaîne YouTube Le Conservatoire du Jeu. Merci à tous. Chers auditeurs, de nous avoir écoutés, on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit, et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques !